par des psychologues, mais aussi dans l'arrêt médical par des infirmiers ou des anesthésistes ou des infirmières anesthésistes. Dans le cadre de la prise en charge de la douleur, je ne connais pas beaucoup le sujet, mais est-ce qu'il peut y avoir des dangers par rapport à des interférences ou des bioniques?
Je Bertrand veut y répondre. Mais
c'est une excellente question et ça va être le sujet, tu vas dévoiler le sujet d'une prochaine intervention précisément sur la question de l'hypnose, la sophrologie et toutes ces questions-là. On développera ça l'année prochaine. Mais pour dire quand même un petit mot là-dessus, rapidement, toutes les expériences de Bessemer, du somnambulisme magnétique au XVIIIe siècle, qui ont été repris après le XIXe, l'hypnose est née avec Chertok, les travaux de Chertok, un Alsacien dont je ne me souviens plus le nom, et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on est à ce niveau-là, on manque d'une rigueur épistémologique. C'est-à-dire qu'il y a tout un protocole d'analyse qui échappe et on rentre dans l'irrationalité. Et pourtant, un certain nombre de choses sont opératoires. Donc ça subjugue, et c'est pas parce que c'est efficient que c'est licite sur le plan moral. Voilà, alors on essaiera de développer ça l'année prochaine.
Il ne se voit pas immédiatement. Hein. Cette étanchéification ensuite à la vie spirituelle.
Ce qui est dissociation entre la sensation, entre le corps et l'esprit. Donc cette dissociation n'entraîne-t-elle pas d'autres types de dissociation?
Pour faire passer le micro.
Personnellement, je connais une personne qui s'est guérie de son tabagisme par l'hypnose. Et pourtant, lorsqu'elle est arrivée chez le diseur, elle lui a dit de toute façon, bon, je ne peux pas fumer, hein, j'ai une bague ici à la poche, mais on ne peut pas fumer. Et bien, trois jours après, ça a terminé, elle a fumé. Et c'est une femme qui est très saine.
La suggestion l'a aidé à franchir le pas, sans doute.
Concernant le mort, j'ai une de mes collègues, mon mari est décédé. Un jour, elle était dans son jardin. Dans un jardin qu'elle louait avec son mari assez loin de sa maison. Elle était seule, parce que c'était dans un endroit assez isolé. Et d'un seul coup, elle a entendu deux fois son prénom et dit exactement comme ça au mari que lui disait. Alors, elle a été très, très impressionnée parce qu'il n'y avait personne autour d'elle, elle était vraiment toute seule.
Étonnamment fréquente et pertinente, et qui l'impression que ça vient du bon esprit. Et saint Jean de la Croix est très rationnel dans son approche mystique. Il ne met pas à côté, de côté la raison. Et il voit bien que dans cette vie intérieure et dans cette vie spirituelle, il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'illusions.
Moi, j'avais eu tendance à dire, on est capable de, peut-être à certains moments, par notre propre psychisme, de produire des phénomènes de ce genre-là. On est dans un domaine non probable, mais pas prouvé, sur celle-là. Mais la force d'évocation de notre psychisme est quand même étonnante. Quoi. On a tous vécu à certains moments des cheminements qui se sont avérés totalement faux. Quoi. Et pourtant, on y croyait. Quoi. On s'était fait un scénario. Alors, ça a explosé.
J'ai actuellement une amie qui a perdu sa fille lors d'un accident, une fille de 16 ans. Ça fait 12 ans, donc elle est encore très peinée, dans un grand chagrin encore. Et justement, elle fréquente l'association Jonathan. Et c'est vrai que quand je parle avec elle, je sens une certaine. C'est quelque chose qui me gêne, c'est qu'elle me dit toujours je suis en contact avec. Elle me dit c'est le prénom de sa fille, je suis en contact avec elle, on se parle, et j'espère qu'on se parlera de plus en plus. Alors ce soir, quand on parle de Jonathan, je me dis comment on peut parler à cette. Comment je peux lui parler à cette amie, parce qu'il y a une mise en garde à faire, alors qu'elle est encore dans un profond chagrin, qu'elle est persuadée qu'elle est sur le bon chemin. Comment on peut se positionner par rapport à des personnes comme ça?
C'est sûr que si on les laisse partir dans un cheminement de plus en plus convaincu qu'on peut communiquer avec qu'on peut approfondir les communications, voire même aboutir à obtenir des messages, ça ne va absolument pas permettre le travail de deuil, et puis ça va emmener vers des illusions dont la fin sera d'autant plus, encore plus tragique. Une intervention de votre part pour délicatement poser des petites questions susceptibles de mettre des points d'interrogation. Mais ça me semblerait utile pour avoir approché justement à travers des personnes qui venaient demander des salles chez nous ou pour être allé à Montlijon aussi, ce centre de prière pour les défunts. On voit bien que ces lieux sont quelquefois assiégés par des groupements de personnes qui gravitent autour de messages de l'au-delà obtenus par l'une des familles, qui ont publié ensuite, comme on l'a vu, des volumes, etc., et qui ont un bulletin de liaison, qui ont des réunions périodiques, et qui, à partir de là, font un réseau d'amitié pour se soutenir les uns les autres. Mais il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait sain, S.A.I.N., dans le climat, quoi. C'est cet attachement excessif à une relation toujours plus tangible, le plus tangible possible, avec celui qui nous a quittés. Quoi. C'est pas tout à fait ça. Et dès qu'on essaye de poser une question, on voit très bien que les gens se hérissent et ne veulent pas entendre une mise en cause de ce qu'elles ont trouvé dans ce groupe qui leur semble tellement, tellement important pour les soutenir, pour les aider à cheminer, etc. Et là, on s'aperçoit une fois de plus que tout est mélangé, parce qu'il y a des bonnes choses. C'est vrai qu'il y a un soutien mutuel par rapport à des personnes qui sont dans le deuil, dans de très, très grandes épreuves. Et puis en même temps, il y a des déviations qui s'installent. Quoi. Il faut démêler les deux et les aider à ne pas s'enfermer dans cette chose-là.
Surtout que c'est limité dans le temps, je crois, l'intervention à l'association Jonathan. Je crois que c'est limité à 3 années, je crois.
Ah bon, je ne savais pas.
3 années.
beaucoup, oui, mais ça peut aussi, 3 années, on peut semer aussi quelque chose, et puis après les gens vont s'en trouver tout seuls.
J'ai parlé avec une des aumôniers d'hôpitaux aujourd'hui, là, c'est venu sur le tapis sans que je cherche. Donc, c'est vrai que c'est proposé comme à une des associations d'aide, quelquefois, des personnes en détresse.
On a l'impression, avec la perte de la foi, la perte des bases, parce que les gens ont une base théologique, peut-être chez qui, que justement, dans les moments de détresse, ils se. Priant d'associations comme ça qui se présentent de manière très compassionnelle pour retrouver une sorte de spiritualité, pour qu'il y ait une sorte de vie qu'on peut remplir à ce moment-là. Mm. Et alors les gens se passent cette.
Est délicate. Ce que j'ai pu observer sur la durée en écoutant de nombreuses personnes, c'est que des personnes qui ont elles-mêmes été demandeuses de services occultes, en allant voir des guérisseurs, des magnétiseurs, ou des médiums, des voyants, ont en elles-mêmes ouvert des portes. De petites portes qui permettent à l'esprit du mal d'agir plus intensément dans leur vie. Bon. Mais en même temps, ont quelque part transgressé quelque chose de la parole de Dieu et que, effectivement, ça fait partie d'une sorte de configuration d'hérédité spirituelle qui est transmise dans la famille, dans la lignée familiale, quoi. Alors j'ai longtemps hésité avant de penser ça, parce que ça me semblait complètement hurluberlu, mais puisque nous parlons d'hérédité organique, d'hérédité psychique, psychologique, au niveau de l'art, au niveau des dons, etc., pourquoi n'y aurait-il pas non plus aussi une certaine hérédité spirituelle? Ça peut se retrouver au niveau de la sainteté, comme ça peut se retrouver au niveau de l'occultisme, c'est-à-dire qu'une famille où il y a vraiment une façon de sur plusieurs générations de rechercher sans cesse la plus grande sainteté, une famille où il y a de nombreuses vocations, où il y a beaucoup de sacrifices et de sainteté, produira à terme dans les générations à venir sûrement de beaux fruits. Donc en ce sens, on peut dire qu'il y a une hérédité de sainteté qui ne cesse de croître, quoi, hein. De même qu'il peut y avoir dans l'autre sens un impact d'un certain nombre d'actes de péchés qui ont été vécus et qui n'ont pas été confessés et qui se retrouvent après, qui peuvent se retrouver après au niveau de certaines fractures qu'il y a dans les personnes. Mais ça demeure délicat, vous comprenez, ce n'est pas mathématique, ce n'est pas automatique, on marche sur des œufs quand on dit ça. Mais n'empêche que, pour moi, au niveau de l'occultisme, c'est assez visible. Quand je reçois des familles, je pose forcément des questions sur et vos parents, par exemple, est-ce qu'ils allaient voir des guérisseurs, des magnétiseurs, etc. Et vos grands-parents, autant que vous le sachiez, et y avait-il quelqu'un qui a pratiqué activement, qui avait un don? Et dans certains cas, j'obtiens des configurations tout à fait étonnantes et qui montrent que ce qui se passe actuellement, les perturbations actuelles de la personne qui est devant moi, a quelque chose à voir aussi avec ce qui a été vécu une génération, deux générations, trois générations avant.
Alors, est-ce qu'une messe de réparation dans le sens des sept peut libérer?
Je ne sais pas. On peut toujours prier, on peut toujours demander, effectivement, faire une démarche. Quand on est conscient de l'impact que ça peut avoir, ou quand on a pu identifier certains fardeaux, on peut toujours faire une démarche pour demander au Seigneur de nous en libérer et demander une sorte de purification du climat spirituel de la famille. Certainement. Mais là encore, on s'en remet avec confiance à Dieu, quoi. Il faut, éviter de tomber dans la magie, entre guillemets, dans l'automaticité ou dans la recette. Ce qui nous est malheureusement congénital, on cherche toujours à avoir des trucs qui nous permettront de... Mais c'est des domaines qui sont... c'est des questions qui, avec le développement de la psychogénéalogie, qui est quand même assez prégnante, ce sont des questions qui sont un peu nouvelles au niveau de la vie spirituelle. On ne se les posait pas il y a 50 ans, je pense. Enfin, je ne sais pas si Bertrand peut dire autre chose.
Je pense aussi qu'il peut y avoir des murs qui sont attachés entre, dans certaines maisons ou certains endroits. Il y a eu des pratiques d'occultisme. Je crois que la mémoire du lieu peut être entachée par les pratiques qui ont eu lieu dans ce... D'où l'importance de bénir la maison, de bénir les lieux.
Comment?
Précisément, on a une automaticité, c'est Ézéchiel chapitre 18, les dents des enfants grincent, sont agacées à cause des raisins verts mangés par les parents. Mais cette automaticité, précisément, est battue en brèche par d'autres passages de la Bible qui restituent la responsabilité personnelle comme première, sinon on tombe dans une sorte de comment appeler ça, une prédestination qui est mauvaise.
En fait, il y a un retour à des comportements archaïques.
Oui, tout à fait. Conscience que c'est un parasitage et que c'est pas net et qu'elles sont prêtes à faire une démarche pour s'en séparer et pour arrêter, ça va bien. Mais quand elles persévèrent dans leur affaire, d'autant plus qu'elles y trouvent un enrichissement personnel, pour faire clair, il n'y aura pas de changement. Enfin, il faut que la personne décide vraiment d'arrêter toutes ces choses-là. Mais ça peut être valable aussi pour la personne qui est accro. Il y a des personnes qui sont accro de tout ce qui est lieu d'apparition, message venu d'en haut, locution de ceci, de cela, prophétie, machin truc, enfin, mais qui ne vivent que comme ça, quoi. C'est plus fort qu'eux. Ça leur colle à la peau, et donc ils vont partout, ils courent partout. Et quelquefois, il n'y a pas grand-chose à leur faire. Enfin, ils ne sont pas du tout prêts
à
sortir de ça.
Intérieure, lui, il met un mémoire dessus.
micro. On n'a pas entendu dans le fond.
Oui, Bernard nous dit qu'il avait un grand bémol sur la question intérieure d'aller voir ses joies. Bon, c'est pas trop, mais par contre, une chose est certaine, ça doit ramener à la parole de Dieu. Et si ça ne ramène pas à la parole de Dieu, c'est pas bon. Donc c'est pas bon. Et si ça vient de Dieu, ça doit ramener à la parole de Dieu.
Oui, puis moi je suis vraiment totalement. Je dis que c'est pas, c'est, ce ne sont pas des voies à cultiver, en aucun cas. Donc il faut écarter toutes ces choses. C'est forcément des moyens de se planter et de se tromper.
Ça distrait. Oui.
Donc il faut apprendre à cultiver la foi pure, à cultiver l'écoute de la parole de Dieu, la vraie spiritualité, quoi, mais qui repose uniquement sur la parole de Dieu. Voilà, y a-t-il encore d'autres choses ? Oui, c'est le micro, pardon. Livingstone de Goéland.
Livingstone de Goéland est un film qui a été commandé par la méditation transcendantale. Donc derrière, il y a la méditation transcendantale. Et derrière l'histoire de ce Goéland, il y a toute la perspective de la réincarnation, de l'initiation, etc. Donc on est là véritablement dans quelque chose qui n'est absolument pas chrétien. Alors qu'un mouvement qui se dit chrétien prenne comme pierre angulaire, c'est véritablement quelque chose qui n'est pas juste.
Je ne sais pas s'ils se disent chrétiens, hein. Jonathan Pierre, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ils véhiculent ça. Oui. Bon. Mais je vais étudier plus avant, si j'en ai le temps. Voilà, on va s'arrêter là.
Mon âme exalte le Seigneur, exultons l'Esprit en Dieu, mon Sauveur, et de ses branches sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse, le puissant fit pour moi les merveilles. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés. Envoie les riches, les matrides, il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen.
Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon retour, bonne nuit.